France Inter. Icône du cinéma français et beauté impériale s'étant aussi bien illustrée dans la comédie que dans le drame, Carole Bouquet a été révélée par Louise Buñuel dans Cet obscur objet du désir, puis par Bertrand Blier dans Trop belle pour toi, dans un très beau rôle qui lui vaudra un César. La franchie, dont la grâce intimide de nombreux spectateurs, moi comprise, n'a jamais eu peur de prendre des risques, et il émane d'elle, figurez-vous, quelque chose d'assez rock'n'roll. Elle a imprégné les pellicules de Werner Schroeter, Francis Ford Coppola, Dino Rizzi, Claude Berry, Michel Blanc ou André Téchiné, le petit écran pour Agnieszka Holland, Jacques Weber ou la série En thérapie, et les planches en énonçant du Racine ou du Pinter sous la direction de Samy Fray, Gérard de Sarthe ou Lambert Wilson. Elle a récemment donné la parole à Samuel Paty dans Le professeur d'Émilie Frèche, mis en scène par Muriel Mayette-Holtz, et va peut-être refaire entendre Les lettres d'amour d'Antonin Artaud. Elle sera à l'affiche des films Demain je tombe amoureux de Martin Provost et de Derrière les palmiers de Ben Mbarek, en 2026. Ce soir, nous reviendrons sur son parcours, ses goûts et lui donnerons carte blanche pour en partager d'inédits. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Carole Bouquet.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmée, c'est la dernière de... L'hommage à Samuel Paty qui était dimanche, non pas que ça soit la dernière, mais il y avait quelque chose de qui est un texte qui est quand même plutôt lourd, surtout pour ceux qui l'entendent, c'est-à-dire que moi je le raconte, mais ceux qui sont dans la salle sont quand même un peu interloqués. Et après, on a fait un goûter comme les enfants, on a fait un goûter chez moi avec que des gens que j'aimais, donc c'était extrêmement joyeux.
Je crois que pendant que vous jouiez ce texte d'Émilie Frèche, vous avez eu une révélation et l'avez entendu différemment. Pendant que vous le jouiez sur scène un jour,
ben ça a changé. Alors ça, je me souviens pas de ça, mais par contre, ça a changé beaucoup parce qu'en fait, c'était soi-disant une lecture. Alors, au bout de quelques semaines, forcément, c'est plus une lecture parce que vous savez par cœur le texte et vous pouvez prendre des libertés avec. En même temps, c'est un texte avec lequel on peut pas jouer parce que c'est pas, on peut pas jouer avec la mort de Samuel Paty. Je veux dire, c'est en plus extrêmement récent. Donc il fallait trouver une manière de raconter sans que ça soit ennuyeux et monotone, puisque je faisais 5-6 personnages, et sans que ça soit caricatural. Et en fait, non, il m'a fallu quelques semaines pour le trouver, pour trouver justement chaque personnage et qu'ils existent, parce que j'étais toute seule sur scène, éclairée, habillée en noir, éclairée vraiment le minimum possible. Donc, il fallait que je puisse disparaître derrière les personnages, tout en les faisant exister. Donc, c'était un exercice de style qui était un peu particulier, mais qui était très, très, très intéressant.
Alors, je rebondis sur le fait que vous ayez dit toute seule à l'instant, et j'aimerais bien parler de solitude, puisque votre père est mort quand vous aviez 21 ans. Mmh. Vous dites que vous n'avez jamais pu vous parler. C'est lui qui vous a élevé, votre sœur et vous. Il n'y avait pas de gaieté chez vous, mais vous aimiez profondément votre père, et vous dites que votre mère n'a pas su vous aimer. Et je voulais savoir quel était votre rapport à la solitude et à la mélancolie.
Alors, mon rapport à la solitude est effrayant, c'est-à-dire j'aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. La mélancolie, je vis avec tout le temps.
Vous l'avez apprivoisée ?
Est-ce que je l'ai apprivoisée ? Forcément. Mais enfin, c'est quand même elle qui domine. Hein. Je l'ai apprivoisée comme dans la chanson de Barbara, c'est-à-dire qu'elle croit l'avoir apprivoisée, puis tout d'un coup, elle retape à la porte. Elle dit, me revoilà. C'est pas très loin de ça, mais c'est vrai que grâce au métier que je fais et aux gens que je rencontre, hein, parce que c'est pas le métier en lui-même, c'est pas le fait de jouer la comédie, mais c'est les gens avec qui je suis, j'ai quand même une facilité et une envie de rire qui m'est nécessaire, qui fait que j'ai plutôt une nature joyeuse. Mais forcément, quand je suis seule, je ne ris pas toute seule.
Vous avez longtemps manqué de confiance en vous. Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Maintenant, elle se passe très bien parce que de toute façon, je ne me pose plus le problème. Ça y est, c'est-à-dire que je ne suis qu'une seule personne. Avant, je ne savais pas vraiment, quand j'étais toute jeune, je ne savais pas je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas, ce qui est normal d'ailleurs quand on est tout jeune, mais en plus, comédienne à 18 ans, qui n'était pas prévue parce que c'était pas dans, j'avais pas rêvé depuis enfant d'être comédienne, pas
vous
du
tout. Vous étudiez la philosophie d'ailleurs avant de vous inscrire au conservatoire.
Quelques jours, hein, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas apprendre toute seule. J'avais besoin d'un rapport direct avec un professeur. Donc, dans un amphi, moi, avec plein d'élèves, et ça ne marchait pas. Donc, j'en suis partie et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, à un dîner, c'est Serge Moati, dans un dîner où je dois avoir 17 ans et demi, 18 ans à peine, qui me dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et je ne sais pas pourquoi. Parce que franchement, je n'y avais pas pensé avant, hein. Je lui dis actrice. Et de là, tout est parti, mais à une vitesse folle. C'est-à-dire, je rentre au conservatoire alors que je ne l'avais même pas préparé. Je l'appelle la veille, je n'ai pas d'acteur, je n'ai pas de metteur. Il m'a aidé à préparer. C'est le premier tour, puis après le deuxième tour. Donc, je me suis retrouvée au conservatoire. Au conservatoire, par contre, je n'ai pas travaillé parce que j'étais là, hein, tous les cours. J'écoutais, mais parce que j'avais trop peur. Parce que j'avais des gens, moi, comme Didier Sand, Ada Strancar, Dominique Valadier, que je trouvais des acteurs extraordinaires, mais qui avaient déjà de l'expérience. Et moi, j'en avais pas du tout, donc Vitesse, qui était mon professeur, ne me demandait plus jamais de passer. J'ai été virée d'ailleurs deux fois, et chaque fois il allait voir le directeur du conservatoire en disant « mais non, elle est là, simplement il savait que s'il me disait mon nom, je hurlais non, donc c'était pas la peine. » Donc j'écoutais, mais le problème c'est que j'ai fait le film de Buñuel pendant, donc c'était pas cohérent, mais comme j'avais signé un contrat et qu'on disait moteur, là je pouvais quand même pas ne pas le faire, donc j'étais affreusement coupable en plus par rapport aux autres du conservatoire, en me disant « pourquoi c'est moi ?» J'arrêtais pas de voir les Buñuel en disant « ils sont tellement mieux que moi ». Il s'est dit « elle va me casser les pieds avec ça ». Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il en a employé quelques-uns, puis il les a coupés au montage. Tu sais, il s'est dit comme ça « elle va me foutre la paix ». Et puis après, c'est parti. L'autre jour, j'ai dîné avec un monsieur mexicain, donc Buñuel ayant habité beaucoup au Mexique. Et tout d'un coup, il apprend par quelqu'un qui était autour que j'ai fait un film de Buñuel. Alors là, son intérêt pour moi a décuplé, parce que pour eux, effectivement, c'est un dieu vivant.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Carole Bouquet, de votre éducation, vous retenez un sens du devoir et le goût des autres. Et je crois que vous avez été en pension chez les Dominicaines parce que vous avez voulu y suivre votre sœur aînée.
Oui, c'est vrai. J'avais 10 ans à ce moment-là. Et mon père, c'est comme j'étais élevée par mon père et qu'il se retrouve avec deux jeunes filles, enfin, entre 10 et 15 ans, il se dit « mais comment je vais les élever ? Je ne sais pas faire ». Donc, il nous a mis dans un très bon pensionnat, d'ailleurs, les Dominicaines, qui ont été extraordinaires avec moi. Je pense que c'est les femmes les plus féministes que j'ai rencontrées de ma vie. Et je me suis fait virer au bout de 3 ans parce que j'étais quand même pas une élève modèle. Non pas que je fasse tellement de bêtises, mais simplement, je grimpais aux arbres tout en haut. Elle hurlait en bas tout en tournant, en disant « Carole, descendez ». Je faisais des bêtises de genre là. Donc au bout d'un moment... Elles ont convoqué mon père en disant, écoutez, elle m'aimait beaucoup, hein, mais en disant, mais c'est plus possible là, au bout de quelques années. Et mon père leur a dit, oh merveille, il m'a pas engueulé, il leur a dit, mais c'est parce que vous savez pas l'élever. Et je me suis dit, c'est dément à quel point il a confiance en moi. Et ces Dominicaines m'ont appris à être indépendante. Et il n'était pas question, alors c'est vrai qu'on avait la messe souvent, mais par contre, il n'était pas question qu'on a... Si, on a appris à coudre, enfin, je ne m'en souviens plus, mais il fallait qu'on travaille. C'est-à-dire, pour elle, on était là pour devenir médecin, avocate, j'en sais rien, travailler sur un chantier, n'importe quoi. Mais il n'était pas question qu'on soit femme à la maison, à ne rien faire. C'était étrange, parce que ça pouvait... Pour moi, qui arrivais d'autres écoles, d'ailleurs même à 10 ans, c'était pas l'avenir qu'on m'avait prévu dans les autres écoles.
Alors justement, à l'âge de 10 ans, on vous prenait, c'est dur à croire, pour un garçon. Vous avez toujours eu une ambivalence avec la féminité, ça n'a pas toujours été évident, mais vous étiez un garçon qui jouait aux soldats de plomb et qui chantait des chansons à boire.
C'est vrai. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai des cheveux tout court, coupés comme un garçon. Donc à ce moment-là, avant la puberté, on ne sait pas très bien si c'est un garçon ou pas. Je ne suis pas particulièrement avec des robes, pas du tout. C'est pas comme mes petites filles aujourd'hui où plus il y a de paillettes, plus il y a pas la grande, pas celle qui a 14 ans. Ça y est, l'époque paillettes est passée. Mais les petites, c'est paillettes et petits nœuds. Enfin. c'était pas mon genre du tout. Moi, j'étais vraiment effectivement habillée. Moi, je m'habillais comme un garçon, enfin à peu près comme je m'habille maintenant, d'ailleurs, avec un pantalon, une chemise, mais à l'époque encore plus peut-être comme un garçon. Et les gens me prenaient pour un petit garçon. Donc c'est vers 10 ans que ça a changé parce que je me suis laissée pousser les cheveux. Ma mère voulait pas, alors qu'elle ne m'éduquait pas, elle voulait pas que je me laisse pousser les cheveux. Je crois qu'elle tenait absolument à avoir un garçon, elle. Donc, en fait, c'était resté comme ça jusqu'au jour où j'ai fait une révolution qui était toute petite, mais qui était ma révolution, en me disant, je voudrais me faire pousser les cheveux. Et à partir de là, je me suis dit, bah, peut-être que je suis une fille, pour finir.
Et comment a évolué votre rapport à votre apparence?
Oh, ça a mis du temps, beaucoup de temps. Je me cachais, je voulais vraiment pas me montrer, alors ce qui est quand même le comble en tant qu'actrice. Mais même en tant qu'actrice, d'ailleurs, j'ai fait des films, ça s'appelle « Cet obscur objet du désir ». Donc franchement, comme titre, ça m'arrangeait pas tellement, parce que c'est la dernière chose que je voulais être. Mais grâce à Buñuel, ça a aussi changé la façon dont les gens m'ont, enfin, dans lesquels moi j'ai dû me regarder, tout en n'y croyant pas, tout en doutant, bien évidemment. Alors le James Bond à peine n'aide pas non plus.
Et vous ne vouliez pas le faire, le James Bond?
Non, je voulais pas le faire. J'avais déjà dit non 2 ans avant. Et là, c'est pas moi qui ai voulu le faire, hein, parce que je me suis dit après le Buñuel, si je fais un James Bond, moi je travaillerai plus, ce sera fini. C'est-à-dire, je vais être classée comme un objet ravissant, mais vous étiez là pour représenter
l'objet du désir.
C'est exactement ça, donc ça n'allait pas du tout. Et la deuxième fois quand il m'appelle, c'est parce que j'ai 3 garçons devant moi. J'ai Werner Schroeter, Benigni, Jean-Pierre Assam, j'en ai 4, et le producteur de Roberto Benigni, qui entendent, je ne sais pas comment ils ont trouvé mon numéro de téléphone, j'étais en Italie dans une maison, et ils avaient dû perdre une actrice, parce qu'à 3 semaines du tournage, c'est pas vrai qu'on n'a pas d'actrice. Donc il y a quelqu'un qui a dû leur dire non, et ils m'appellent en me disant, est-ce que vous voulez bien faire le James Bond? Et j'ai mis la main sur le téléphone, et j'ai demandé, les garçons, bien sûr, eux, enthousiastes, ont dit oui. Donc j'ai dit oui, et dès le lendemain, on a eu rendez-vous à Rome, ça n'a pas traîné plus de 2 jours. Hein. Dès le lendemain, tout le monde a débarqué à Rome, et puis c'était fait. Voilà. Alors je me suis ennuyée ferme, parce que les 2 mois de voyage, non, ça c'était merveilleux. Le mois en Grèce et le mois à Cortina d'Ampezzo, c'était merveilleux. Le reste, en piscine, quand vous faites semblant de nager devant un bocal, en maillot de bain, en bikini à l'époque, ou sur un matelas, c'est pas très très satisfaisant. Mais en même temps, ils ont été, je leur cassais les pieds parce que je devais aller faire un film de Werner Schroeter.
Le jour des idiots.
Et on était en retard, et le temps passait, et Werner m'attendait, et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle nous ennuie avec ça? Qui sait ça? Et quand le film est sorti, enfin, la publicité du James Bond, et le film était sélectionné à Cannes, le film de Werner Schroeter. Et par contre, on vivait à ce moment-là, tout le cinéma était au Carlton, donc le soir après, les projections, c'était fascinant parce que vous aviez tous les metteurs en scène, tout le monde était là. Par contre, pour sortir, il y a une espèce d'arche au Carlton, et sur les arches, j'avais mes 2 jambes de chaque côté de publicité du James Bond, donc je me passais dessous en baissant la tête, et le film de Schroeter, l'équipe du James Bond est allée le voir, dont l'attaché de presse, que j'avais fait, à qui je cassais les pieds quand même, et qui très gentiment, alors que c'était un film très loin de, à mon avis, même ce qu'il aimait, a me dit, mais je comprends pourquoi tu avais tellement envie de le faire, par rapport à un James Bond.
Vous dites que ça vous a libéré de la peur de jouer ce film.
Oui, parce que c'est la première fois
Le jour des idiots.
Où j'ai vu dans le regard, non pas du metteur en scène, mais des techniciens, que ce que je faisais marchait. C'est-à-dire que j'avais dans leur regard, surtout celui du chef opérateur, et le son. La chose que j'ai appris encore le plus, d'ailleurs, c'était sur Trop belle pour toi, c'était avec Gamet, Pierre Gamet, qui était un chef opérateur du son extraordinaire. Et quand je voulais savoir si c'était bien ou pas, en fait, c'est le son. Parce que l'image est ment, donc vous laissez avoir. Par contre, si le son n'est pas juste, ça vous l'entendez tout de suite.
Alors, pour revenir à Buñuel, il paraît qu'il a prédit votre avenir et qu'il vous a dit que vous pourriez être attiré par l'excès. Vous dites qu'il lisait en vous comme un livre ouvert. Vous l'appeliez Don Luis.
Oui, j'appelais Don Luis. Tout le monde l'appelait Don Luis. Hein. Sauf Jean-Claude Carrière. Mais tout le monde l'appelait Don Luis. Et il m'a peu parlé. Puis d'un coup, on va en Espagne tourner 15 jours, les derniers jours du tournage, et tout d'un coup il me regarde, il me fait « mais tu es pas du tout la même. Il me parlait pas, hein. Mais là, tout d'un coup, il se met à me parler, puis il me dit, mais tu es pas du tout, du tout la même à Paris que là. Et effectivement, je suis pas la même dans le midi que dans, enfin, plus on descend dans le sud, plus je suis quelqu'un de joyeux et il s'est rendu compte de ça très vite en voyant à quel point je changeais pratiquement de caractère. Et puis, il m'a aussi parlé du contrat Chanel. On en était très... Personne ne m'en avait jamais parlé. Je n'avais jamais imaginé le faire et j'y avais même jamais pensé. Et il m'a parlé de mon caractère de façon assez, je dois dire, assez pointue. Alors en même temps, c'est vrai qu'il était génial, mais en même temps, j'ai 18 ans et il en avait 88. Je pense que quand j'aurai 88 ans et que je vois une jeune fille de 17-18 ans, je pourrais lui dire beaucoup de choses. Même moi, déjà, je peux déjà dire beaucoup de choses. Mais il l'a dit comme quelqu'un de vraiment extrêmement clairvoyant. Et j'ai assisté à une chose, par contre, était extraordinaire. Ça va énerver ceux qui aiment la corrida, mais tant pis. On est allé, c'est la première fois qu'il remettait les pieds en Espagne, hein, depuis qu'il était parti, depuis la guerre. Et on est allé voir une corrida ensemble. Et ben, au départ, toute l'arène s'est levée pour Buñuel. Parce que c'est la première fois qu'il remettait les pieds en Espagne. Et les mots sont passés petit à petit que Buñuel était là. Et j'ai vu toute l'arène se lever pour lui. Et le soir, il y avait des projections de ses films qui avaient été interdits. Et il y avait des milliers d'étudiants, mais c'était incroyable à quel point cet homme était vénéré, et c'était normal. Mais c'était la première fois qu'il remettait les pieds en Espagne, donc c'était un événement, oui, national.
Après le film, vous avez tourné à New York un petit film underground, Blank Generation, d'Ulysse Lomel. Il paraît qu'à la première, les gens jetaient des canettes de bière sur l'écran. Et à New York, vous avez rencontré Andy Warhol, qui s'est inquiété pour vous parce que vous étiez au Chelsea Hotel, là où on lui avait tiré dessus.
Oui, c'est vrai. Quand je suis arrivée, on a fait la couverture d'interview de Andy Warhol. Donc, c'est pas que je le connaissais très bien du tout, mais après quelques mois, je suis retournée à New York pour autre chose. Et puis... il apprend que je dormais dans l'hôtel sur lequel on lui avait tiré dessus. Donc il dit à un homme qui était à côté de moi à table, que je connaissais pas, qui s'appelait Peter Beard, qui était un extraordinaire photographe, il lui a dit tu l'enlèves immédiatement de cet hôtel et tu lui trouves un appartement. Ce qu'il a fait dès le lendemain. Et après, il a fait ma nounou pendant un an. C'est-à-dire qu'on sortait ensemble, puisqu'on dînait tous les soirs ensemble.
Comment était-il?
Andy Warhol, absolument charmant. Mais d'une douceur et d'une gentillesse. Moi, j'étais terrorisée. Hein. C'est même lui, par exemple, mes 21 ans, c'est lui qui les a organisés dans un club, c'est le Club 21, où il est venu, parce que j'avais une scène, le metteur en scène en avait profité parce qu'il avait compris que je le voyais souvent, mais on se parlait peu. Et pour autant, il m'a dit, mais fais-le venir dans le film. Je fais, non, attends, vas-y toi. Moi, je lui demanderai pas de... Et pour finir, c'est quand même moi qui lui ai demandé. Il a dit oui. On a improvisé une scène tous les deux, mais d'une douceur et d'une... Vraiment, c'était un être vraiment particulier et avec un talent, c'est-à-dire qu'il avait déjà compris ce que c'était que la publicité. Enfin...
Vous vous appelez Roger Sartet. Vous êtes né le 15 octobre 1935 à Nancy. Jusqu'à l'âge de 11 ans, vous allez assez régulièrement à l'école primaire. C'est la seule note favorable de ce lourd dossier. Car votre casier judiciaire commence à 14 ans.
Regardez mon coup, commissaire.
Pas précisément. Vous êtes monsieur Manalaise?
Oui.
Commissaire Le Goff.
Enchanté.
Vous auriez dû prévenir la police.
Eh oui, je sais bien, mais je vous dis, j'avais pas de preuves.
Carole Bouquet, on entend un extrait du Clan des Siciliens d'Henri Verneuil, sorti en 69. Je crois que votre amour pour le cinéma s'est développé au lycée à Versailles. Vous séchiez le lycée, décidément, vous étiez quand même assez indiscipliné. Et vous preniez le train jusqu'au cinéma des Champs-Élysées. Et vous avez vu à peu près 10 fois le Clan des Siciliens.
Ah, vous vous souvenez de ça?
Je m'en souviens, oui, récemment.
Oui, c'est absolument vrai. Parce qu'à un moment donné, mon père, j'ai passé un an, moi, j'ai pas grandi donc avec ma mère, et elle habitait le midi, et j'ai passé, je pleurais quand je partais, je pleurais pour rien, parce que je pleurais l'idée d'une mère. Et un jour, mon père m'a laissé aller vivre avec elle dans le midi, ça s'est extrêmement mal passé, et je pleurais dans l'autre sens pour retourner avec mon père, ce qui lui faisait un plaisir fou, et j'ai été virée de l'école. À un moment donné, il arrive à la maison, chez ma mère, il ne sait pas, il vient me chercher à l'école, on lui dit que je suis pas là, Et il ne m'en a jamais parlé. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais virée. Rien, pas un mot. Je crois qu'il était tellement content que j'ai envie de rentrer avec lui. Et comme il n'était pas bavard, il n'a rien dit. Il ne fait aucun commentaire. Alors effectivement, à partir du moment où je rentre à Paris, et à ce moment-là, parce que c'était juste la seconde où j'étais dans le midi, en première, j'étais dans une école. Mon père avait déménagé à Versailles, qui à l'époque était pour moi détestable. C'est complètement différent Versailles maintenant, mais à l'époque, j'ai l'impression d'habiter, moi, je voulais habiter Paris. Il me disait, mais comme ça, vous avez chacune votre chambre, vous avez. Je dis, mais j'en ai rien à foutre, moi, j'aurais bien dormi sur un 3 lits superposés s'il fallait, toi en bas, mais ma sœur au-dessus, enfin n'importe quoi, une seule salle de bain, je m'en fiche, mais je voulais habiter à Paris. Et donc, je n'allais pas à l'école, je prenais le train pour aller à Paris, qui arrivait directement sur les Champs-Élysées. Et il y avait un cinéma qui n'existe plus. Et puis en plus, il y avait une chose géniale à l'époque. C'était en continu. On n'avait pas à attendre telle heure de tel film. C'est-à-dire que vous pouviez rentrer au milieu d'un film, n'importe lequel d'ailleurs. Le cinéma était permanent. Ça, c'était merveilleux. Vous n'avez pas, il n'y avait pas de rendez-vous à prendre. Il n'y avait pas de ticket à acheter avant. Enfin, par contre, le seul cinéma qui était ouvert à 10h du matin, c'était le petit cinéma des Champs-Élysées. Et je regardais pendant toutes les semaines. Je commençais à 10h du matin à peu près, jusqu'à 3h l'après-midi, le temps de rentrer à la maison et d'être à l'heure, soi-disant, pour être sortie de l'école. J'ai vu effectivement Le Clan des Siciliens une dizaine de fois, mais j'ai vu pendant des mois et des mois le même film, mais ça m'intéressait autant. J'adorais ça, moi j'avais l'impression que c'est comme si j'avais un petit œillet, je prenais le cinéma moi pour la vie. Je croyais que c'était comme la mienne, je la trouvais un peu monotone et un peu ennuyeuse. Et j'avais un père merveilleux, mais qui parlait pas. Donc, on dînait, ma sœur et moi, avec lui en silence, ce qui n'était pas extrêmement joyeux. Donc, j'avais l'impression de regarder les autres vivre. Je prenais pas vraiment ça pour du cinéma, moi. Et un jour, mon père m'a dit, tu peux aller voir ce qu'il y a sur mon bureau. Donc, je reviens, il y avait une lettre en disant, on est très inquiet, on n'a pas vu votre fille depuis des mois. Donc, j'ai mis très longtemps à lire cette lettre qui était très courte pour autant, en me disant, qu'est-ce que je réponds? Alors, j'ai répondu la vérité, j'ai dit, écoute, je vais au cinéma, il m'a absolument jamais cru. Jamais, jamais. Il s'est dit, elle peut pas aller au cinéma toute la journée, c'est pas...
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Je sais que certains pensent que je suis un peu trop belle. Je le vois bien dans leurs yeux. À tout cela, et puis aux autres, je présente mes excuses. Vous savez, la beauté, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis une femme comme une autre. Je tremble, je me trouble.
Carole Bouquet, on vous entend dans « Trop belle pour toi » de Bertrand Blier, pour lequel vous avez reçu le César de la meilleure actrice. Vous avez aussi tourné dans « Buffet froid » avec une scène d'anthologie où Bertrand Blier avait mis son père dans une barque alors que son père était terrorisé par l'eau. Quel souvenir gardez-vous de ce cinéaste ?
C'est pareil, c'est pas pareil que Buñuel du tout, mais c'est des chances. En fait, je suis dans « Buffet froid » par un hasard, quand j'habitais New York, j'étais pour autant extrêmement timide, mais me voilà quand même à l'ambassade de France, je sais pas, il devait y avoir un dîner, et Blier est là, Toscan du Plantier est là, et Blier demande simplement, il me voit monter les escaliers avec mes longs, longs, longs cheveux noirs et mes lunettes à ce moment-là rouges, pour être sûr qu'on me voit pas trop quand même, avec le plus caché possible, et il demande à Blier en disant, mais c'est qui cette jeune fille-là? Il fait, mais c'est la jeune fille qui est là, elle a fait le film de Buñuel. Et donc, j'ai fait Buffet froid, où je me suis effectivement amusée à terroriser parce que je conduisais une traction avant, sans lunettes. Je suis très myope à l'époque, je mettais pas de lentilles. Et j'avais les trois garçons derrière moi, mais terrorisés en me disant, tu es sûr, tu y arrives? Je fais, oui, bien sûr, je vais y arriver. Et puis après, il y a eu ce cadeau. Ça, déjà, c'était un cadeau merveilleux. Alors, je jouais la mort. Toujours ça n'étant pas, ça, rien ne m'aidait à arriver à une comédie, alors que celui en fait qui a le premier qui a osé, c'est Michel Blanc, parce qu'il me connaissait dans la vie. Parce que sinon, là, il n'y a rien à faire, ça ne se réchauffait pas du tout autour de moi. Voilà, c'est un très beau souvenir.
Je crois que je vais m'évanouir.
Ah, me faites pas ce genre de numéro, hein.
C'est pas un numéro.
Quel effet ça vous fait de me voir étendue devant vous, vulnérable, comme une proie sans défense?
Carole, je suis Michel, je vous en supplie, croyez-moi.
Quelle importance ça, qui vous êtes, qui je suis, tout ce que je vois, c'est deux corps terriblement proches l'un de l'autre. Comment vous la trouvez-vous, cette soirée?
Ben, je sais pas, douce comme une soirée de printemps.
Moi, je la trouve moite et torride, comme les nuits de Malaisie avant la mousson. On voudrait pouvoir arracher tous ces vêtements. On étouffe, j'étouffe. Vous ne le sentez pas?
C'est votre ceinture, elle est trop serrée.
Mais non, c'est ma vie qui est trop serrée. C'est toute cette comédie qui m'étouffe. Si tu savais comme j'en ai marre d'être glacée, inaccessible. Si tu savais comme j'en ai marre de faire peur. Moi, je rêvais de l'embada brutale, de gros garçons en sueur et de fêtes de l'huma. Et surtout, le bras costaud qui vous emprisonne, qui vous protège, qui vous bouscule. On prend en photo, on m'admire, on ne me bouscule pas. Bouscule-moi, Patrick. Manque-moi le respect. Qu'est-ce que j'ai de moins que Balasco, putain?
Je suis pas Patrick.
Vas-y, salaud, prends-moi comme une ouvrière.
Carole Bouquet, on vous entend dans Grosse Fatigue, justement, sorti en 94, écrit par Michel Blanc et Bertrand Blier, qu'on oui. entend bien aussi. Alors, on dit souvent qu'on a découvert votre talent comique dans Travaux de Brigitte Rouen, mais vous êtes très drôle dans Grosse Fatigue, vous venez
ah
de
oui,
le
oui,
dire.
Oui,
déjà.
Enfin, j'espère.
Ah oui.
Mais c'était fait pour ça, effectivement, puisque je suis en plus censée jouer mon propre rôle. Ce qui était merveilleux, c'est que les gens ont pris pour argent comptant, c'est-à-dire ce que j'avais. Donc les gens venaient me voir en me disant « Mais on ne savait pas que tu avais une maison comme ça dans le Luberon. » Je dis « Mais non, ce n'est pas ma maison, c'est la maison du film, ce n'est pas moi dans le film. » Et sur plein de scènes, les gens me disent « Mais on ne savait pas ça, on ne savait pas. » Je fais « Non, ce n'est pas moi, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui joue moi, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie. » On s'est amusé énormément à un moment donné. Donc, quand on était en dehors de Paris, Michel, qui malheureusement est parti, c'est baroque hein, pour qu'il soit parti. On n'a rien compris. Encore plus, toute l'équipe du Splendide ont été tellement malheureux et sont tellement malheureux et ont tellement du mal à comprendre pourquoi Michel, qui était en plus hypochondriaque, donc il n'allait pas faire un examen comme ça n'importe comment pourquoi il est mort comme ça, mais. La partie à la campagne était merveilleuse parce qu'il détestait la campagne. Cette maison, justement, où on était dans le midi, tous les jours, il était d'une humeur de chien en me disant « Je supporte pas cet endroit ». Et je lui dis « Mais enfin, c'est quand même très beau ». Il me fait « Non, 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 non ».
Qui ressemblait à son personnage.
Il aimait les villes. Il aimait que les villes et aucune sorte de campagne. Rien, ni la mer, ni rien, non, les villes.
Je m'appelle Lucie Aubrac. Puisque mon autre jeune fille, c'est Lucie Bernard, que j'ai épousée un monsieur qui s'appelait Raymond Samuel, mais lequel avait, à la fin de la Résistance, au moment où il a été arrêté avec Jean Moulin, une identité pour la Résistance qui était Aubrac. Moi, je n'avais comme identité qu'un prénom, puisqu'à cette époque-là, si les hommes avaient un nom de famille, les femmes, dans la Résistance, avaient un prénom. La première chose qui m'a beaucoup frappée, peut-être plus encore que l'occupation, c'est la chute de la République. Ma grosse colère, ça a été contre Pétain et les actes constitutionnels. Ça, je ne l'ai pas encaissé.
Carole, mon Dieu, pardon, que je voudrais qu'elle soit là. Mais tous, Jean-Pierre Vernant que j'ai connu, son mari, d'autres, Stéphane Hessel, comme je voudrais qu'il se réveille. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, je ne l'ai pas encaissé. Mais là, mais qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui de ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire qu'elle m'engueulerait moi-même d'ailleurs, en me disant, mais enfin, on n'a pas fait ce qu'on a fait pour vous osiez faire de la terre ce qu'on vous êtes en train de faire.
Il paraît qu'elle vous engueulait souvent, Lucie Aubrac, que vous avez interprété.
Elle m'engueulait pas souvent, parce qu'elle avait énormément de plaisir à être avec nous sur le tournage à venir, mais simplement deux choses, une chose très... Je sonne, on devait dîner chez elle, et je sonne, et c'était un jour d'élection, pas présidentielle, hein, mais d'une petite élection, je sais pas quoi, enfin, et elle me dit « Tu es allée voter ?» Et je lui dis « Non, non, je me suis fait engueuler, en me disant, mais tu crois quand même pas que je t'ai donné le droit de vote pour que tu oses ne pas aller voter ?» Je fais « Non. » Non, non, je recommencerai plus jamais, Lucie.
J'étais là, assis en face de Tati, et il me dit, il me pose cette question. Qu'est-ce que vous savez du cinéma, vous? Qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film? Ah ben, je lui dis, je sais pratiquement rien, quoi. Vous n'avez jamais été dans un studio, dans un auditorium, non? Non, jamais. Bien. Donc, il appelle Suzanne, avec qui, par la suite, on devait travailler pas mal, puisque elle a monté Le Tambour, Schlendorf et d'autres films. Et il dit cette phrase absolument décisive, pour moi, que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Il dit, Suzanne, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce que c'est que le cinéma. Alors elle m'a amené comme Ariane guidant Thésée dans les dédales, jusqu'à son repère, qui était sa salle de montage. Elle m'a dit de m'asseoir. Elle a mis la bobine, une bobine des vacances de Monsieur Hulot, sur la Moritone, comme on l'appelait à l'époque, le scénario. Et elle m'a dit tout le problème, en posant la main sur le scénario, tout le problème est de passer de ça à ça, au film.
C'est Jean-Claude Carrière, c'est Jean-Claude, qu'on entend c'est la voix de Jean-Claude. En 2020, interviewé par Télérama. Je crois que c'est grâce à lui, Carole Bouquet, que vous avez consciemment choisi le métier d'actrice. Et il vous disait aussi, tout à l'heure vous parliez de Buñuel, avec lequel il a travaillé, vous disiez qu'il parlait de vous, juste, vous dites que vous avez un côté Gargantua. Et oui. Lui parlait de votre façon de manger, c'est notamment ce qu'il a fait au César en vous rendant hommage.
Oui, le texte du César, quand j'étais présidente, il ne l'a écrit que sur ma façon de manger. On déjeunait très souvent ensemble, j'ai eu cette chance de passer ma vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec lui jusqu'à la fin de sa vie, depuis l'âge de 18 ans. Alors, pendant le film, on déjeunait tous les jours ensemble, je ne déjeunais pas avec Buñuel, ça j'avais beaucoup trop peur, mais avec Jean-Claude, oui, ça allait. Et il le retirait mon assiette, et après on a déjeuné ensemble toutes les semaines, pratiquement toute sa vie, qui a duré jusqu'à 95 ans, et il me retirait mon assiette en me disant « Mais Carole, c'est pas possible, moi j'ai pas fini mon assiette, tu en es à la troisième, je ne peux pas, je mange, effectivement, je dévore, je bois très vite, je mange très vite. » Il me dit « Mais enfin, tu n'as pas fait la guerre, enfin, tu n'as pas eu faim, pourquoi ?» Et il n'arrivait pas à comprendre, hein, il n'a jamais compris, et je peux pas faire autrement, ça continue hein, d'ailleurs, à moins que je sois toute seule, si je suis toute seule, je mange à une vitesse à peu près normale, je dirais. Mais à partir du moment où il y a des gens autour de moi, je mange effectivement très vite. Le temps, en fait, c'est par timidité, hein, et le temps d'être rassuré. Donc, il a écrit le texte sur les Césars que sur ma façon de manger. Et de marcher aussi en me disant « tu marches comme un soldat ». C'est une raison pour laquelle j'ai fait le film de Werner Schroeter, d'ailleurs. C'est parce qu'il trouvait qu'il y avait une dichotomie entre mon physique et cette manière de marcher et de manger. Lui aussi, en me disant « c'est quand même étrange, ça va pas du tout ensemble ».
Ich habe mich verliebt.
Was?
Ja, Christa. Ich habe mich verliebt. In einen Marokkaner, der 20 Jahre jünger ist als ich. Eher mehr.
Du machst wirklich eigenartige Witze, Mama.
Ich habe geheiratet.
Du hast...
Mama.
On entend un extrait de tous les autres, s'appelle Ali de Fassbinder. La femme héroïne du film annonce à ses enfants qu'elle est amoureuse d'Ali, qu'elle l'a épousé. Et c'est un film que vous avez choisi, puisque j'ai promis une carte blanche aux auditeurs avec vous, Carole Bouquet. Vous auriez adoré travailler avec Fassbinder, ça a oui. failli se faire.
Ça a failli se faire. Je dois dire que j'allais énormément à la Cinémathèque, ou de toute façon voir énormément de films, même ayant commencé à travailler. Et l'un des metteurs en scène qui m'a le plus marqué, à part tous ceux qui ont fait l'histoire du cinéma, hein. Je pense que jusqu'à Scorsese, c'est Fassbinder. Vraiment, ça me faisait rêver, j'avais vraiment envie de travailler avec lui, mais ça, j'étais incapable de le dire. Mais il se trouve que quand le film de Werner Schroeter passe à Cannes, il est là. Et il vient me voir et il me dit « je voudrais faire deux films avec toi ». Je m'en pinçais, moi, je me disais ce que je comprends, vraiment ce qu'il est en train de me dire. Un en tant qu'actrice et l'autre qu'il avait écrit. Malheureusement, il est mort entre-temps. Ça, c'est un regret immense parce que j'aurais adoré travailler avec lui. C'est vrai que j'aimais son cinéma énormément, et à part les grands classiques que j'allais voir tout le temps à la Cinémathèque, mais sinon des films de cette époque-là, en tant que metteur en scène, celui qui m'a le plus marqué, c'est lui. Oui.
Il est certain que l'amour de l'étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu'à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux et bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Mais les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire. Et quand par hasard, il s'en trouve quelqu'une née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par cet état.
Carole Bouquet, vous avez reconnu immédiatement ce dont il s'agissait, c'est le discours sur le bonheur de Madame du Châtelet qu'on entend lu par Prudence Castelot, et je crois que ce texte figure dans votre panthéon.
Oui. Je l'avais même inscrit certains bouts dans mes cuisines, ce qui, mes enfants n'en pouvaient plus, qui était sur le fait qu'il fallait faire des études et que c'était effectivement la porte, en tous les cas, pour être indépendant, pour pouvoir penser, et qu'une femme ait osé dire ça à cette époque-là, vivant avec Baudelaire, ce qui a d'ailleurs été très compliqué pour elle. Mais elle pensait, on se rend pas compte, parce que de porter un corset, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas marcher. Qu'est-ce qui vous reste? Lire, et encore, c'est compliqué de lire avec un corset. Un vrai corset de l'époque, vous êtes complètement raide et vous pouvez pas appréhender le monde. Vous pouvez pas aller marcher, vous pouvez pas aller le regarder. Vous pouvez rien faire en fait, à part penser. Et encore, si on vous a donné des livres à lire. Donc, et le livre qu'elle écrit, finalement, bah, il se trouve qu'elle va faire le contraire de ce qu'elle dit. À la fin, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme dont elle va tomber enceinte et elle va en mourir. Voilà, j'ai une immense admiration, au point de m'en demander de temps en temps si on ne devrait pas en faire un film, parce que sa vie est passionnante et qu'il y a des contradictions, comme pour nous tous, là, à ce point-là, flagrantes.
Standard de ce soir, c'est les Ronettes, Be My Baby.
Un valzer. Nemmeno mi fossi messa d'accordo con l'orchestra, principe. Non le pare?
Come?
È un valzer. O forse si è già pentito.
Ah no, certo. Ti prego, scusami.
On entend un extrait du Guépard de Visconti, adapté du livre de Lampedusa, et ça fait partie de votre carte blanche, Carole Bouquet.
Je pense que c'est l'un des plus beaux films qu'il soit. Alors, il y en a beaucoup, parce que j'ai passé beaucoup de temps à la Cinémathèque et je connais bien le cinéma. En tous les cas, celui jusqu'à il y a 30 ans, je dirais. Et la beauté de ce film, la justesse. Voilà un metteur en scène avec qui j'aurais aimé travailler. Malheureusement, je le rencontre, il est déjà dans une chaise roulante et il va pas bien. Sinon, je pense qu'on aurait pu, on aurait pu travailler ensemble. C'est éblouissant. Je l'ai vu, je l'ai revu. Je peux le voir à chaque fois.
je m'étonne du moindre détail, de l'intelligence du scénario qui vient effectivement d'un livre de Lampedusa, mais de la justesse des costumes qui n'existent plus aujourd'hui. C'était un homme qui s'appelait Piero Tosi qui avait fait les costumes, qui à un moment donné avait fait les costumes pour la Callas, pour Pasolini, pour Visconti. Et un jour, je le vois, il y a très longtemps déjà, sur une place à Rome, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je travaille avec qui ? Un jean, qu'est-ce que je fasse ? Je ne peux rien faire, moi. J'ai plus rien à faire. Donc, son studio était ouvert, mais lui, il ne travaillait plus. Effectivement, que pouvait-il faire avec les films à partir de cette époque-là ? Plus rien.
Et l'amour ? Il faut nous laver de cette crasse héréditaire où notre vermine stellaire continue à se prélasser. L'orgue. L'orgue qui moule le vent, le ressac de la mer furieuse, sont comme la mélodie creuse de ce rêve déconcertant. D'elle, de nous, ou de cette âme que nous assîmes au banquet, dites-nous, quel est le trompé, ô inspirateur des infâmes, celle qui couche dans mon lit et partage l'air de ma chambre, peut jouer au dé sur la table, le ciel même de mon esprit.
Antonin Artaud, en 1947. Carole Bouquet, vous avez lu ces lettres à Génica au Théâtre de l'Atelier en 2010 et je crois que vous avez le projet de les reprendre.
Je voudrais les reprendre parce que je me suis rendu compte que le temps a passé. Je ne vois pas que sur moi, mais parce que moi, soi-même, on ne se rend pas très bien compte. Mais je me rends compte par rapport à des références qu'ont les gens. Et par exemple, quand je parle d'Artaud, personne ne connaît ses textes et non l'image de lui que d'un fou furieux.
Pour en finir avec le jugement de Dieu. Oui,
oui voilà. Or, l'intelligence et la manière dont, d'ailleurs, il aime faire peur, hein. Il aime terroriser, il aime jouer. Alors, il y a un moment donné, effectivement, il est allé fumer du peyote, je sais pas où, en Amérique du Sud. Ça, c'était vraiment pas pour lui parce c'est comme s'il l'avait fumé naturellement, enfin, ou bu naturellement, je sais pas comment ça se prend, mais il avait vraiment pas besoin de la moindre drogue. Si, il en avait besoin pour se calmer et il supplie qu'on lui donne parce qu'il a mal. Et il supplie qu'on lui donne de l'opium pour aller mieux et pas du tout pour être défoncé, simplement parce que c'est la seule personne que je connaisse qui, dans la littérature, décrit la douleur aussi précisément, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'imaginer et la comprendre. Et on le voit très bien dans les lettres à Génica, beaucoup plus que dans aucun texte, parce que là, il parle de façon très libre. J'ai envie de le reprendre parce que, à propos justement de douleur et de l'importance en ce moment de la psychiatrie, de ce qu'on est en train de découvrir, de en même temps de ce monde qui va pas si bien, j'ai envie de relire ces lettres. Alors j'avais coupé dans les lettres et je les recouperai encore parce qu'il était d'abord, il savait très bien qu'il écrivait qu'il savait écrire et très bien parce qu'il lui a demandé à chaque fois de lui rendre ses lettres, ce qui n'a pas été le cas dans le sens inverse. Donc il voulait récupérer ses écrits, ce qui déjà vous raconte un peu comment il se pensait. Et puis il lui demandait de l'argent à chaque fois aussi. Donc ça j'ai enlevé à la fin de chaque lettre parce que je me disais il va paraître antipathique et c'est pas du tout ça que je veux. Mais par contre il sait raconter la douleur et la raconter, puisque c'est une douleur mentale, mais la raconter physiquement ce que ça lui fait. Et je pense que c'est le seul. J'ai lu beaucoup de livres, que ça soit celui de Cocteau sur l'opium ou William Staryon qui à un moment donné a eu une dépression terrible où il voulait mourir. Et pour autant, on comprend pas quand même à quel point cette douleur oui, est une torture au point que vous voulez en mourir. Lui sait la raconter.
Dans les choses que vous aviez choisies pour l'émission, on n'a pas le temps de les aborder, mais je le dis quand même aux auditeurs et on le mettra sur le site internet. Il y avait L'Idiot de Dostoïevski, Une saison en enfer de Rimbaud, Le Bernin et Clara Isée, notamment la chanson Le monde s'est dédoublé. Mais hélas, notre entretien s'achève. Merci beaucoup, Carole Bouquet.
Merci, Eva, merci à vous.
En 2026, vous serez dans les films Demain, je tombe amoureux de Martin Provost, enfin c'est le titre pour l'instant, ainsi que dans Derrière les palmiers de Meryem Ben Mbarek. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Alexandra Conet et Louise Morfoas. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Arnaud Caillet.